Le yiddish aujourd'hui. Chanson, musique, littérature, théâtre, événements, actualité. Avec Astrid Ruf et Annette Fern. Bonjour, shalom aleichem. Alors aujourd'hui, Astrid est en voyage et Yaël est à l'école, donc c'est moi toute seule qui vous présente l'émission. Et comme nous nous approchons de Pourim, j'ai cherché des textes rapportant à Pourim. Et ça tombe bien, puisqu'il y a un texte de Kadia Molodovsky, donc, dont vous avez compris que c'était mon auteur préféré ou mon autrice préférée, qui a écrit sur Pourim. Donc c'est toujours dans cette autobiographie, l'héritage de mon arrière-grand-père, dit Yerusha von mein Elder Zeide. Cet arrière-grand-père qui habitait Paris, qui était assez riche, où sa mère allait en visite, et donc et dont ils ont aussi hérité quelques affaires, et dont ils sont allés toute la famille à Grodno, hein, comme on l'avait raconté la dernière fois. Ils sont tous allés à Grodno pour avoir cet héritage. Et donc, on les a reçus comme des richards, on a déployé le tapis rouge, il y avait immédiatement des gens qui sont venus demander de l'argent pour différentes institutions. Mais finalement, qu'en est-il ressorti? Ils ont touché, si on a bien compris, des actions dont on ne sait pas du tout si elles étaient monnayables, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Finalement, Kadia Molodovsky, et c'est ça qui est aussi assez charmant dans cette autobiographie, elle fait comme ça des photographies de passage. Il n'y a pas vraiment une suite chronologique très, très stricte. Donc, ce voyage à Grodno, on ne sait pas trop comment il s'est terminé. En tout cas, les voilà de retour de Grodno. Et donc, je vais vous lire ce passage qui se termine, comme je vous l'ai dit, par Pourim. Alors, quand nous sommes rentrés, donc c'est le chapitre 3 de cette autobiographie, quand nous sommes rentrés de Grodno à la maison, pour moi est arrivé un miracle. J'ai enfin commencé à voir la différence entre un dalet et un reich. Depuis des mois, je trébuchais sur ces deux lettres. Oui, je me permets de m'interrompre pour dire que la traduction est donc de Joël Perelberg-Ouriez et nous, dans notre Lehenkreis, notre cercle de lecture qui se réunit une fois par semaine par Zoom, nous lisons ce texte et c'est donc Joël qui a fait la traduction. Ma maîtresse était ma propre grand-mère Chifra. C'était sa profession. Elle apprenait au fil les lettres hébraïques. La grand-mère habitait dans une chambrette chez un boulanger, une pièce à côté de la cuisine. Sur la petite table, il y avait une baguette en os blanc avec laquelle elle montrait les lettres. Vous voyez, c'est un petit peu comme les yad, hein, la main avec laquelle la personne qui lit la Torah suit les lettres. Donc elle avait aussi une espèce de yad. Les fillettes avaient l'habitude de venir chez elle deux fois par jour, le matin et le soir. On la payait, je pense, un rouble la semaine pour son enseignement. La grand-mère portait toujours sur la tête, même en semaine, une coiffe avec des rubans. En semaine, les rubans étaient de couleur foncée et le Shabbat de couleur claire. La leçon durait 10 minutes et les fillettes attendaient leur tour. Avec beaucoup de patience, la grand-mère s'est efforcée de me faire saisir entre la différence entre le dalet et le reich. La baguette à la main, elle m'a expliqué que le reich se tient sur son propre pied et que le dalet n'avait pas son propre pied, mais se tenait sur un pied qu'on lui avait ajouté. Et avec la baguette, elle m'a montré le pied qu'on lui avait ajouté. J'ai entendu l'explication un grand nombre de fois, et cependant, je continuais toujours à confondre le dalet avec le reich. La grand-mère ne se fâchait jamais avec les fillettes, mais elle travaillait activement de la baguette. Alors, je crois que je me permets de dire que, vu les explications que la grand-mère donne, on comprend pourquoi la petite fille continue à confondre le reich et le dalet, qui sont effectivement deux lettres qu'on confond souvent. Et cette histoire de pied n'est pas très claire. En tout cas, elle n'arrivait pas à comprendre. Et en rentrant de Grodno, j'ai compris la subtilité, la différence entre le Dalet et le Rej, et j'ai commencé à lire les lettres hébraïques comme une grande fille. Voilà, donc cette, là aussi une description très précise, hein, on est toujours étonné comment ces écrivains se rappellent de tout ce qui s'est passé dans leur petite enfance. Quel âge a la petite fille? Elle a 5, 6 ans. À mon avis, c'est aussi tout simplement qu'elle a grandi, c'est-à-dire ils sont partis à Grodno un certain temps, et puis en revenant, elle avait un peu mûri, et tout d'un coup, des choses qui lui paraissaient très très compliquées, elle les a comprises. Voilà, ben on va s'arrêter là pour une musique. Et j'ai de nouveau sorti donc ce disque Les Tsigoynes, musique traditionnelle d'Europe, sous la direction de Jean-Claude Chauchkan. Et cette fois, nous allons écouter Eza Enai, une musique klezmer. Voilà, une musique joyeuse qui va bien dans l'ambiance de Pourim. Je trouve que ce disque a un très joli son, c'est vraiment très agréable à écouter. Alors, et Pourim, allez-vous me dire, ça vient. La grand-mère gagnait sa vie toute seule. Et chez ses fils, elle n'allait que pour les fêtes. Chez mon père, le fils cadet, elle venait pour le repas de fête de Pourim, donc la Seouda de Pourim, la Souda yiddish, avec sa coiffe garnie de rubans clairs, bien sûr, et avec un gilet clair fleuri. Pour nous, les enfants, elle avait traduit la Megillah en vers en yiddish. Alors, je vais vous le lire d'abord en français, et puis ensuite en yiddish, parce que c'est quand même beaucoup mieux. Il voulait exterminer le peuple juif comme des moutons et du bétail à Man. On l'a pendu, ainsi que ses 10 enfants. Mardoché n'a pas voulu se prosterner devant Aman, il ne voulait pas regarder un méchant. Esther, la juste, était issue d'une grande famille. Pour séduire l'empereur, Dieu lui a donné du charme. Alors, je vais vous lire en yiddish, car ça a plus de goût, ça a plus de tam, comme on dit. « Homen hat gewollt fartilligen die Jiden wie Schof und Rinder. Hat man ihm oif gehangen mit seinen 10 Kinder. Mordre hat sich nicht gewollt zu homenen Bucken. Hat fein geheit, auf ein Rosche zu gucken. Esther, die Zadekes, hat gestammt von einem Mischbocher Größer, hat ihr Gott gegeben, rein in die Augen von Kaiser. » Voilà, donc la grand-mère était aussi, elle faisait des vers et elle apprenait aux enfants l'histoire de Pourim. La grand-mère lisait ses vers en chantant et en s'amusant comme si elle avait voulu conquérir les 127 états du roi Assuérus. Ces brus avaient des réclamations à faire à la grand-mère car elle n'avait pas acheté de terrain pour construire une maison au moment où le terrain ne coûtait qu'un rouble et un peu plus. Et maintenant, le terrain coûtait des centaines de roubles. Mais la grand-mère ne s'en souciait pas. Elle avait l'habitude de dire avec légèreté « Oh, ça c'est vraiment mon souci. Il y en a qui regardent leur porte-monnaie et moi je regarde mon enseignement, chacun selon la volonté de Dieu. » Oui, là aussi c'est en vers et donc j'ai pas traduit en vers. Voilà ce qu'elle disait exactement. « Ach, mein Deig, einer hit die Beitel und einer hit dem Teitel. Jeder geht wie Gott fiert. » Donc l'un regarde son porte-monnaie et l'autre regarde son Teitel. Alors Teitel, c'est cette baguette avec laquelle elle montre aux enfants les mots. Beitel rime avec Teitel, alors qu'en français, je ne sais plus si on avait trouvé un vers. Là, ce n'est pas traduit en vers. Y en a qui surveillent leur bourse et d'autres la baguette. Bon, ça ne va pas très, très bien. Et c'est Dieu qui décide, voilà. Et donc, on voit là une personne qui n'est pas du tout attachée au bien matériel. Hein, elle vit très modestement, elle vit dans une petite chambre. Elle ne se soucie pas de l'argent, elle gagne sa vie et ce qui est important pour elle, c'est l'enseignement. À Pourim, les élèves avaient apporté des shlachmanot, donc vous connaissez ça, les cadeaux traditionnels de Pourim, une orange, ou une livre de sucre, ou une boîte de thé, ou un flacon de miel, ou un pot de sirop de framboise. C'était un complément au rouble hebdomadaire. Bien sûr, elle touchait son salaire, et en plus, on apportait des cadeaux de Pourim, comme c'est la tradition. La grand-mère retirait de l'assiette le sucre, le thé, le miel et le sirop de framboise, et mettait à la place un soldat en sucre. Alors, vous savez bien que les shlachmanot, souvent, il y a des échanges, hein, c'est-à-dire on apporte à quelqu'un un shlachmanot et cette personne vous donne en retour une autre. Hein. Il y a un texte de Sholem Aleichem que nous avons déjà lu, très, très amusant, sur les échanges de cadeaux qui finissent par être assez ridicules. Ici, comme ce sont des enfants, des fillettes qui lui apportent quelque chose, elle va leur donner un petit soldat en sucre. Hein. Moi aussi, comme toutes les élèves, j'apportais des cadeaux. Et elle me disait avec sévérité, comme une grand-mère à sa petite-fille, « Ne mange pas le soldat en chemin. » Je me retenais de toutes mes forces pour rapporter à la maison le soldat intact. Et à Pourim, la grand-mère aussi plaisantait en disant avec légèreté, « Je pourrais ouvrir une boutique, je vais avoir assez de sucre jusqu'à Rosh Hashanah avec l'aide de Dieu. » La grand-mère ne restait jamais pour la nuit après le festin de Pourim. Elle disait « Rien de plus doux que son propre lit. » Alors là aussi, elle disait ça en vers. Elle disait « Nicht asa glett wie eigene Bett. » Donc ça veut dire « Pas une caresse aussi agréable que son propre lit. » Comme quoi on dort mieux dans son propre lit. Et on l'a raccompagnée à la maison jusqu'à sa chambrette. Voilà, nous allons là écouter une nouvelle musique. Alors cette fois, c'est un disque que j'ai trouvé de 1997, ça s'appelle Adama, musique juive en ballade, avec toutes sortes de musiques, de toutes sortes de différentes provenances. Et nous allons écouter Mazel Tov. C'est un traditionnel klezmer. Voilà donc une Mazel Tov, un traditionnel klezmer de ce disque Adama, où la direction est assurée par Ilan Zawi. Voilà donc, c'est très intéressant cette histoire de grand-mère. Voilà, donc cette grand-mère qui est une femme indépendante, qui est une enseignante, qui est quelqu'un qui aime bien aussi raconter des histoires, faire des vers, qui ne s'attache pas au bien matériel, mais qui aime bien, est une intellectuelle. Je pense que c'est vraiment un modèle pour Kadia Molodowski, qui a elle-même aussi, bien sûr, raconté des histoires et fait des vers. Voilà, tout ça, on peut dire que ça lui vient certainement de sa grand-mère. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est la formation des petites filles. Donc là, nous avons des petites filles qui apprennent d'abord à lire avec une enseignante. Là, il se trouve que c'est une femme, ça peut être peut-être un homme. Et ensuite, on les envoie chez Berle le scribe pour apprendre à écrire. Et Berle avait la réputation d'avoir une belle écriture et il fallait recopier ses lettres. Berle faisait attention tout spécialement à la boucle du fait final et aussi à la forme à la fermeture ou à la forme de clé du tzadé final. Quand on a su écrire les lettres, il nous a donné à recopier un en-tête. Les en-têtes étaient des modèles de beauté. Donc les en-têtes, c'est surtout la façon de commencer des lettres, puisqu'on apprend déjà à ces jeunes filles à écrire des lettres. Là aussi, c'était finalement très important à l'époque de savoir écrire les lettres au sens de lettres qu'on envoie à quelqu'un. Hein. Donc il fallait apprendre les lettres hébraïques pour pouvoir écrire des lettres. Et les lettres commençaient toujours par « mon bien-aimé »,« ma bien-aimée ». Alors, moi, je me dis que c'était peut-être déjà une préparation à écrire des lettres à un futur fiancé, même si ces fillettes ne sont pas encore tout à fait en âge de se marier. Mais voilà, c'était aussi ça. C'était souvent les femmes aussi qui entretenaient la correspondance avec la famille, avec les amis. C'était un aspect très, très important de la vie, évidemment, à une époque où il n'y avait pas le téléphone. Et donc, on écrivait énormément de lettres dans tous les milieux, hein. Et donc, Adam Olonowski apprend à écrire. Et ensuite, elle a aussi des professeurs estivaux, c'est-à-dire ce sont des étudiants qui viennent passer l'été dans son village, donc Kartouche-Bereja, et qui donnent des cours, peut-être pour se faire un peu d'argent ou pour payer le gîte et le couvert, si on peut dire. Et donc, elle apprend comme ça toutes sortes de choses. Elle apprend la géographie, elle apprend l'histoire, et elle a vraiment des intérêts extrêmement variés et qui vont aussi lui donner cette formation qui va lui permettre ensuite d'être un écrivain de grand talent. Voilà, c'est toujours intéressant de savoir comment les écrivains, l'enfance des écrivains, pour voir un peu comment ils ont été formés. Et elle a eu, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, une formation très variée et très riche. Voilà, je vais terminer par un peu de publicité pour notre chorale Lommerzingen, qui va donc se produire le 5 mars, dimanche 5 mars, à Sainte-Marie-aux-Mines, au temple de Sainte-Marie-aux-Mines, à 17h, pour son programme Yiddish au temple. Voilà, donc c'est un ensemble de chansons variées qui en yiddish avec des introductions. Alors, si vous habitez dans ce coin ou même si vous venez de plus loin, venez écouter la chorale Lommerzingen le 5 mars à 17h à Sainte-Marie-aux-Mines. Et je vous dis shalom aleichem, à la semaine prochaine.
Le yiddish aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités.
Avec Astrid Ruf
et Annette Fern.